Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous pour un nouveau numéro consacré à l'actualité de la métropole toulousaine. Contrairement aux dernières années, l'hiver et le printemps ont été plutôt généreux en précipitations, y compris dans notre région. L'été qui approche est donc moins synonyme d'inquiétude que le précédent en ce qui concerne une éventuelle sécheresse ou des difficultés d'approvisionnement en eau. Il n'en reste pas moins que des températures élevées, voire une canicule prolongée, sont toujours possibles durant la période estivale. Mais on sait à quel point elles sont pénibles à vivre à Toulouse. Il est donc nécessaire de mettre en place les moyens de nous rafraîchir et de nous protéger de la chaleur. Les collectivités cherchent des solutions pour s'adapter aux épisodes caniculaires qui vont se répéter de plus en plus, nous le savons. En 2023, la mairie de Toulouse avait lancé son plan Toulouse plus fraîche, un dispositif et des mesures qui ont été maintenues cette année, avec de nouvelles évolutions pour être encore plus efficaces le moment voulu. Quelles sont ces mesures et les moyens mis en place pour faire face à la chaleur estivale dans notre ville? C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette émission consacrée à Toulouse plus fraîche 2024. Pour nous présenter ces mesures et les réflexions qui ont mené à leur mise en place, je reçois pour la première fois à Métropolez-vous Clément Riquet, conseiller municipal délégué aux espaces verts à la mairie de Toulouse et conseiller communautaire de Toulouse Métropole. Vous êtes également maire de quartier, candidat aux européennes sur la liste écologie positive et territoire. Bonjour.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Avant d'élaborer un plan et de déterminer les mesures qui vont le structurer, il y a d'abord une phase de réflexion et de constat à réaliser. Quels sont ceux qui ont été faits lors de l'été précédent et quelles conséquences ont-ils eu sur les citoyens, je pense notamment aux seniors?
Alors en effet, on parle aujourd'hui du plan de rafraîchissement de la ville qui a été voulu par le maire de Toulouse, Jean-Louis Moudin, à la suite de l'été 2022 qui a été particulièrement chaud. L'été 2023 l'a été également, même si la canicule a été plus tardive et plus brève. On a quand même eu 12 jours de forte chaleur, avec des températures records qui ont été enregistrées à Blagnac, avec 42 degrés le 23 août, enregistrés à la station de Blagnac, et 27 degrés au matin du 24 août, 27,4 degrés. Donc les records, malheureusement, s'additionnent année après année. Et cela a un impact, notamment sur les personnes âgées de plus de 75 ans, avec, ça ce sont les chiffres de l'Agence régionale de la santé, donc à l'échelle régionale, il y a 524 décès qui ont été attribuables, donc pendant la période estivale, qui ont été attribuables à la chaleur sur la région Occitanie.
Ce qu'on peut dire, c'est que les constats des étés précédents ont été confirmés l'an passé, voire amplifié peut-être, parce que vous parliez de température 27 degrés le matin, ça veut dire que les nuits aussi sont malheureusement sont chaudes et ne suffisent pas à faire descendre les températures.
Exactement, il faut agir. En tant que mairie, nous avons les pouvoirs, un certain nombre de pouvoirs d'agir, et c'est pour ça que le maire a souhaité avoir déployer un plan à 360 degrés. Toutes les actions que nous pouvons faire, nous les mettons en œuvre et nous nous projetons jusqu'en 2030 pour déployer ces actions.
Actuellement, par contre, concernant l'été à venir, ce qu'on constate, c'est qu'on a eu un printemps plutôt humide, pour ne pas dire un autre mot, assez frais. On pourrait se dire, il n'y a peut-être pas trop de raisons de s'inquiéter. Quelle est vraiment la situation et quelles sont les prévisions, si on en a déjà aujourd'hui d'ailleurs?
Alors déjà, je veux dire, je compatis auprès de tous ceux qui aiment le printemps et le printemps un petit peu plus chaud et un peu plus ensoleillé. Et moi-même, je précise qu'en tant qu'élu délégué aux espaces verts, je suis content qu'il y ait beaucoup de pluie. Ça permet aux végétaux de bien se porter, à la nature d'être en forme, aux nappes de se recharger. Effectivement, ça fait beaucoup de précipitations, mais à ce stade, on ne sait pas à quoi ressemblera cet été. Les désinformations dont je dispose, c'est quand même qu'il y a 70% de probabilité que l'été 2024 soit encore plus chaud par rapport au normal de saison, c'est-à-dire par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Et il y a 20% de possibilité que ce soit conforme aux moyennes des 30 dernières années et 10% que ce soit plus frais ou moins chaud. Donc on doit s'attendre de toute façon à un été qui sera relativement chaud, on espère, avec le moins de vagues de chaleur possible.
Puis, bon, quoi qu'il en soit, on sait que la tendance, de toute façon, pour les années à venir, va aller dans le sens un peu que vous décrivez, avec des étés qui seront de plus en plus chauds et avec des périodes de sécheresse, de fortes chaleurs qui vont se prolonger, qui commenceront de plus en plus tôt, qui se termineront de plus en plus tard. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui a été fait et mis en place jusqu'alors pour lutter contre la chaleur, que ce soit au niveau municipal ou métropolitain, pour permettre aux citoyens de se rafraîchir ?
Donc, je le disais, le maire a souhaité se mettre en place ce plan donc fin 2022 avec des premières actions dès l'été 2023 que nous avons effectivement déployées. Ça concerne à la fois des actions que nous avions déjà mais qui sont augmentées. Je pense par exemple au plan 100 000 arbres, je pense à la désimperméabilisation des sols, je pense aussi aux cours d'école Oasis. Parce que parmi les objectifs de ce plan, c'est aussi se préoccuper de la santé des plus fragiles. Donc il y a les seniors, il y a les enfants, donc les enfants effectivement dans les cours d'école. Les seniors, là il y a des dispositifs qui sont reconduits, donc avec la possibilité de s'inscrire sur le registre au point info senior. Si vous permettez, je peux donner le numéro, le 0800 042 444, donc je répète le 0800 042 444, vous pouvez inscrire un proche et comme ça, dès qu'on est dans une période de forte chaleur, il recevra un appel pour savoir, un appel de nos services pour savoir est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il pense à s'hydrater, etc. Donc des actions en faveur des seniors et en faveur des enfants, et puis c'est aussi aménager le temps, ou plutôt les horaires d'ouverture de nos équipements, notamment les espaces verts, les piscines, les musées. Donc toutes ces actions, nous les avons déployées dès l'été 2023.
Et bien après cet état des lieux, avant de regarder dans le détail les mesures du plan 2024 pour rafraîchir la ville, Toulouse plus fraîche 2024, nous allons nous intéresser à l'actualité métropolitaine. Il est l'heure du flash d'information de Corinne Saint-Félix. Métropole et vous, l'actu.
Et commençons ce flash d'information par une belle victoire, celle du club de rugby de la Ville Rose, qui rafle une sixième victoire en Coupe d'Europe. Plus de 11 000 personnes sont venues dimanche accueillir les joueurs du stade toulousain et voir la coupe au balcon de la place du Capitole après un match intense et insoutenable. Les deux plus beaux palmarès du rugby européen, Toulouse et le Leinster, se sont livrés à un match de finale de la Champions Cup d'une puissance rare. Toulouse a finalement dominé la province irlandaise du Leinster après prolongation 31-22 samedi au Tottenham Hotspur Stadium de Londres pour décrocher donc sa sixième Champions Cup. Une sixième étoile ornera bientôt leur maillot rouge et noir après celle décrochée en 1996, 2003, 2005, 2010 et 2021, ce qui fait deux de plus que sur celui du Leinster, battu pour la troisième année consécutive en finale. Prochain objectif, remporter le championnat de France du top 14. La finale aura lieu le 28 juin au Stade Vélodrome de Marseille. Dans le domaine économique, nouvelle implantation d'entreprises sur le territoire toulousain. Allozym, entreprise investie dans la découverte et l'ingénierie des enzymes pour les industries alimentaires et chimiques, a choisi la Ville Rose pour établir sa filiale européenne. Une expansion qui renforce la position de Toulouse en tant que pôle d'innovation en Europe dans le domaine des biotechnologies. Cette implantation devrait dynamiser l'écosystème entrepreneurial et scientifique de Toulouse Métropole et de la région, mais aussi favoriser le développement de solutions dans les secteurs alimentaires, chimiques et médicaux. Avec cette expansion, Allozym vise à étendre sa plateforme d'enzymes, en particulier vers l'industrie pharmaceutique. Ils étaient attendus et les voilà qui arrivent. Les tunneliers débarquent progressivement pour creuser la ligne C du métro. Le premier tunnelier arrivé ce mois-ci entrera en action cet été pour creuser la portion de tunnel entre Montaudran et le port Saint-Sauveur. Les quatre autres arriveront avant la fin de cette année. Ils doivent creuser simultanément les 22 km de galeries souterraines pour relier les stations Colomiers-Gare à Montaudran-Gare, piste des géants. L'engin assure à la fois le forage du tunnelier, son soutènement et sa construction avec des voûtes préfabriquées en béton, les voussoirs, tout en assurant la stabilité des sols et des bâtiments en surface. Un tunnelier en action, 24 heures sur 24, parcourt en moyenne 12 mètres par jour. Il faudra environ 2 ans aux 5 tunneliers pour creuser les 22 km de tunnel de la ligne C. La roue de coupe du premier tunnelier arrivé à Montaudran arbore lui les couleurs rouge et or de la croix occitane, également croix de Toulouse. Les 5 tunneliers sont aussi baptisés du nom de personnalités féminines qui se sont distinguées au sein de l'Académie des Jeux Floraux. La période des stages de seconde arrive et à cette occasion, Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse proposent 150 stages. Les élèves de classes de seconde générale et technologique scolarisés dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture ainsi que dans les établissements privés sous contrat doivent réaliser un stage d'observation en milieu professionnel du 17 au 28 juin, une occasion de découvrir la fonction publique territoriale et le travail de ses agents. Plus de 150 stages sont à pourvoir dans des métiers et domaines variés, tels que l'administration générale, les services techniques, l'environnement, la petite enfance, l'éducation, les sports, la culture ou encore le social. Les candidats doivent envoyer un mail de motivation avec leur CV en indiquant le secteur qui les intéresse à l'adresse mail suivante apprentissage@mairie-toulouse.fr.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce tour d'horizon de l'actualité métropolitaine. Clément Riquet, je vous demandais de réagir à ce que vous venez d'entendre. Alors, j'ai du mal à croire que vous puissiez être insensible à la 6e victoire du Stade Toulousain dans la Coupe d'Europe de rugby, qui ne s'appelle même plus comme ça d'ailleurs, je crois que c'est la
Champions Cup.
Oui.
Et c'est vrai qu'on a la chance à Toulouse d'avoir une parmi les meilleures équipes au monde de rugby, peut-être la meilleure au monde, et donc c'est toujours un plaisir de suivre leurs rencontres, leurs exploits. Et puis effectivement, on les a accueillis au Capitole où ils ont pu brandir leur trophée devant 11 000 personnes qui sont venues les acclamer. Donc c'était un beau moment simple, un beau moment populaire, et la vie d'une ville se nourrit aussi de ces moments-là. Et puis après, on a évoqué les travaux du métro avec les tunneliers, donc les travaux colossaux qui permettront d'avoir une infrastructure très grande et de haute qualité, avec un très grand débit de voyageurs. Et je vois que le nom, effectivement, choisi pour ce tunnelier fait référence à l'Académie des Jeux Floraux, avec cette poétesse. Et donc, il est important que nous célébrions. On a la chance à Toulouse d'avoir la plus vieille académie, Société Savante.
Ouais.
Donc, elle a 700 ans. Elle fête ses 700 ans cette année. Et donc, pour l'occasion, il y a eu tout un programme, mais on a notamment baptisé un espace vert qui s'appelle le Jardin des Jeux Floraux. Il se situe à la pointe nord de l'île du Ramier. Donc, j'invite tous les promeneurs à aller s'y rendre. C'est un très bel endroit.
Allez-vous promener au jardin des Jeux Floraux ? Eh bien, merci d'avoir bien voulu commenter les informations de ce flash. Nous allons pouvoir reprendre maintenant notre discussion et détailler avec vous les mesures du plan Toulouse Plus Fraîche 2024 proposé par la mairie de Toulouse pour l'été et même les étés à venir.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec notre invité Clément Riquet, conseiller municipal délégué aux espaces verts, la mairie de Toulouse, et conseiller communautaire de Toulouse Métropole. À partir des constats qui ont donc été faits en 2023, quelles mesures avez-vous décidé, quelles mesures avez-vous mises en place cette année, et quelles sont les grandes lignes de ce plan 2024 pour rafraîchir la ville ? Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ça s'inscrit dans une stratégie de plus long terme, à l'horizon 2030 pour Toulouse, avec donc l'objectif de mieux protéger ses habitants et préserver les ressources naturelles.
Tout à fait. Donc c'est un plan, effectivement, qui s'inscrit sur le moyen et le long terme, avec des actions que nous développons déjà et que nous amplifions. Je parlais tout à l'heure de la désimperméabilisation des sols. Ça, c'est très important. Pendant longtemps, pendant des décennies, on a pensé, que ce soit en France ou ailleurs, qu'il fallait simplifier l'entretien. Donc on a mis du bitume dans nos espaces publics, dans nos cours d'école, partout. Maintenant, on fait machine inverse. Donc là, par exemple, pour l'année 2024, c'est un peu plus de 5 hectares de goudron qui sont rendus à la nature. Et cette tendance-là, on va la maintenir chaque année, jusqu'en 2030 et au-delà. Le plan 100 000 arbres que j'évoquais tout à l'heure, la volonté de tripler le rythme de plantation des arbres par rapport à ce qui se faisait avant l'annonce du plan avant 2019, eh bien là, ça se poursuit. Et là aussi, c'est dans tout type de foncier, que ce soit dans nos rues. D'ailleurs, j'ai vu en venant que vous avez rue du Chardon, rue de la Lac, il y a des nouveaux arbres. Je suis passé rue du Pont-Neuf, il y a aussi rue de la République, aussi des arbres. Donc, tout cela. Ensuite, il y a un travail sur l'albédo.
Ça, c'est un très joli mot, albédo, mais comme ça, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une notion, alors j'allais dire une notion obscure, mais c'est pas tout à fait la... C'est la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. Donc, un albédo de zéro, c'est une surface qui absorbe complètement la lumière, donc une surface noire. Et un albédo de 1, donc ça va de 0 à 1. Et l'albédo de 1, c'est une surface qui réfléchit complètement la lumière. Donc c'est un miroir, par exemple. Alors on pourrait penser, on n'a qu'à mettre toute la ville en mode miroir, comme ça on réfléchit toute la lumière et on n'emmagasine pas de chaleur. Mais en réalité, on serait tous éblouis, on ne pourrait plus rien faire dans la ville. Donc il faut trouver un équilibre. Mais ce qui est sûr, c'est que les revêtements tout noirs, on ne peut plus continuer à le faire. Donc là, on a une doctrine voirie maintenant. Ça fait partie des nouveautés. Une doctrine voirie, c'est-à-dire qu'on gagne 10% d'albédo pour faire en sorte que la chaleur ne soit plus emmagasinée dans le bitume. Ensuite, on maintient les ouvertures des équipements publics, notamment les piscines, les musées, etc., les jardins, avec des horaires adaptés, jusqu'à 23h par exemple pour les jardins. Également aussi les restaurants seniors, donc ça, au lieu de fermer à 15h, ça ferme à 18h, donc ce sont des endroits de fraîcheur. Parmi les nouveautés aussi, il y a eu tout ce travail qui a été fait dans le cadre du plan local d'urbanisme, qu'on appelle le PLUIH, à Toulouse, donc, qui est intercommunal, hein, qui concerne l'habitat. Donc là, c'est une mesure qui touche aussi toutes les communes, finalement, de la métropole, les 37 communes, avec une ambition sur les logements traversants. On a 50% de logements traversants ou avec des ouvertures de deux côtés, avec un minimum de pleine terre qui est imposé, avec là aussi des préconisations sur l'albédo, soit sur la toiture, soit sur les façades. On a des préconisations pour l'albédo là aussi. Et puis aussi des casquettes obligatoires sur les versants sud des bâtiments. Donc il y a le PLUIH est aussi conforme à notre ambition de rafraîchir la ville. Et il est d'ailleurs, on l'a comparé avec ce que font d'autres, notamment Paris, bon, il est pas mauvais du tout de ce point de vue-là, bien au contraire. Ensuite, on mène beaucoup d'études sur les thèmes que j'ai évoqués, notamment une étude sur les cimetières aussi, qui sera connue là dans quelques mois, parce qu'on peut désimperméabiliser, enlever du goudron dans certaines allées secondaires, par exemple, sans que ça vienne contraindre les usages des cimetières. On a des actions sur les parasols, là aussi, ça peut sembler assez anecdotique, mais en réalité, si on utilise des toiles anti-UV, on utilise la norme UPF supérieure à 25, eh bien, le confort des usagers sera grandement amélioré et en plus ça évitera de réfléchir parce que si on mettait des toiles blanches, ça réfléchirait le rayonnement sur la brique et là c'est pas bon. Donc voilà, de nombreuses actions. On poursuit les fresques sur la place Abal dans le quartier de la Rennerie à côté de la station de métro. On a quelques brumisateurs, on a des actions sur les fontaines à boire. On a la chance à Toulouse d'avoir la plus grande densité de fontaines, c'est-à-dire qu'on a 75 fontaines pour 100 000 habitants. Donc là, on va développer, on va expérimenter certains nouveaux modèles d'ailleurs qui permettent aussi bien de boire que de remplir les gourdes. Et on va en rajouter quelques-unes. Alors pour faire ça, on s'appuie sur notamment les circuits de promenade, les circuits sportifs pour évaluer quels sont les endroits où c'est le plus pertinent. Tout à l'heure, je parlais des écoles, des publics les plus fragiles. Dans les écoles, ce qu'on souhaite faire et qui sera mis en place dès 2024 pour les maternelles, c'est installer dans chaque classe des brasseurs d'air, c'est des gros ventilateurs. Et ce sera le cas en 2026 pour toutes les classes d'école dans le primaire. Et puis les écoles à nouveau. Donc je disais tout à l'heure qu'on augmentait la cadence sur les plantations d'arbres. Sur la désimperméabilisation, mais ça se ressent aussi dans nos écoles, dans nos crèches. Donc par exemple, les cours d'école Oasis, donc ça c'est la formule que nous mettons en place à Toulouse avec Marion Lalanne de Loubadère, l'adjointe à l'éducation, c'est que grosso modo on désimperméabilise un tiers de la cour d'école, on laisse des terrains de sport pour que les enfants puissent jouer et faire du sport et se défouler aussi, mais on a aussi des coins de biodiversité. Et donc ces cours d'école Oasis avec des plantations d'arbres, avec de la désimperméabilisation, finalement il y en aura 60 de plus sur la mandature. Donc c'est une forte progression et je parlais des crèches, et bien là les crèches, en 2024, on a 5 cours qui ont été retraités pour permettre l'infiltration de l'eau. C'est ça qui rafraîchit hein, finalement. Donc quand on désimperméabilise, on permet l'infiltration de l'eau et la végétalisation. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce plan, mais par exemple, d'autres études que nous menons, c'est la baignade dans la Garonne. Donc ça, on souhaite, si c'est possible, peut-être dès l'an prochain, que les Toulousains puissent se baigner dans la Garonne. Par rapport à l'eau, on sait que c'est un bien très précieux et donc on continue, on augmente la distribution des kits d'économie d'eau qui permettent d'économiser 30%.
Et oui, parce que préserver l'eau, c'est aussi l'économiser.
Bien sûr. Alors là, je me permets de rappeler aux habitants de Toulouse et de la métropole qu'il y a une nouvelle mesure qui entre en vigueur dans quelques jours, le 1er juin, qui est le changement de tarif, en partant du constat que l'eau l'été est plus précieuse, entre guillemets, que l'eau l'hiver, et qu'on doit être particulièrement vigilant à notre consommation d'eau en été. Donc les tarifs vont augmenter pendant 5 mois à partir du 1er juin jusqu'à fin octobre, et en revanche, ils seront plus bas les 7 mois restants, ce qui fait que, grosso modo, sur une année, pour une personne qui consomme les mêmes montants tout au long de l'année, il n'y aura pas de différence ou quasiment pas de différence.
C'est vraiment une mesure incitative pour économiser l'eau. Bon, bah, donc, si on ne fait pas attention, bah, on la payera un peu plus cher. Concernant la préservation de la ressource en eau, on sait qu'il y a beaucoup de réflexions pour l'agriculture, pour stocker l'eau. Est-ce que c'est aussi une réflexion qui est menée dans des grandes métropoles et par exemple à Toulouse ?
Oui, forcément, nous nous y intéressons. Déjà, pour mieux utiliser l'eau pluviale. Parce que dans le passé, on avait tendance à considérer que l'eau nous encombrait, qu'on n'avait qu'à faire des gros tuyaux et envoyer toute l'eau pluviale directement dans la Garonne, c'était plus simple comme ça. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, on ne réfléchit plus du tout comme ça. On a une direction dans la métropole qui s'appelle la direction du cycle de l'eau qui réfléchit à toutes ces stratégies. Et en réalité, ce qu'il vaut mieux, c'est laisser l'eau s'infiltrer à la parcelle, comme on dit, c'est-à-dire laisser l'eau s'infiltrer sur place. Donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement, y compris dans nos chantiers actuels en plein centre-ville? Je pense par exemple à la rue de Metz, je pense à la rue Valade qui a été livrée récemment, et à plusieurs exemples comme ça, la rue Riquet aussi. En fait, on récupère les eaux qui ruissellent sur la voirie dans ce qu'on appelle des tranchées de Stockholm. Tranchée de Stockholm, en quoi ça consiste? C'est déjà une tranchée, c'est-à-dire c'est une fosse d'arbres, de plantation d'arbres qui est continue. Ça, c'est meilleur pour l'arbre parce que comme ça, il a plus de place pour ses racines. Et en plus, quand ses racines communiquent avec les racines des arbres avoisinants, parfois, il y a des communications, etc. Bon, je ne suis pas spécialiste, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très bon pour l'arbre. Ensuite, ce dispositif-là, qui est composé d'un mélange de terre et de pierre. La pierre, ça permet d'assurer la portance, donc, parce qu'on est en milieu urbain, donc avec toutes les contraintes que l'on peut avoir. Donc ça permet d'assurer la portance de la voirie. Et ce mélange terre-pierre permet aussi des échanges gazeux, donc plus l'eau que j'évoquais à l'instant, mais les échanges gazeux qui sont nécessaires à la bonne vitalité des racines et du bon développement de l'arbre. Donc ce dispositif, on le met en place et on le généralise. Il y a aussi ce qu'on appelle les arbres de pluie. Donc tout ça, c'est des dispositifs un petit peu voisins. Quand on fait des aménagements, on regarde aussi si on peut récupérer non pas seulement les eaux qui sont sur la voirie, mais aussi les eaux qui proviennent des toitures envoisinantes. Donc il y a une vraie révolution là-dessus, et c'est passionnant, hein, mais il faut le faire. C'est aussi ça, rafraîchir la ville. Ensuite, sur le stockage, parce que vous avez posé la question du stockage, là c'est un petit peu tôt pour lancer des procédés, mais il y a des études, voilà, il y a des études qui sont en cours. Il y en a déjà eu quelques-unes qui n'ont pas été concluantes. Par exemple, on a un ancien parking, Place Belfort. Ah ben c'est là où je suis maire de quartier d'ailleurs. Place Belfort qui n'est plus utilisé. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on peut stocker de l'eau ici pour la réutiliser pour les espaces verts avoisinants, y compris les allées Jean Jaurès? Bon, finalement, ça n'a pas été possible. Mais la question est bien là, de façon générale. Et je pense qu'on va pouvoir trouver. Ça s'est fait aussi dans d'autres communes ou dans d'autres métropoles. Et donc à Toulouse, on arrivera sans doute à avoir du résultat là-dessus.
Et puis, la mairie appelle aussi les citoyens à faire part de leurs idées, à partager leurs idées. Et pour ça, il y a un débat citoyen qui a été lancé. Avez-vous des idées pour rafraîchir la ville? Comment on peut y participer?
Alors, pour y participer, c'est sur le site jeparticipe.toulouse.métropole.fr, à moins que j'ai inversé quelque chose. Donc, effectivement, il y a quelques questions. Ça prend 5 ou 10 minutes de le remplir. Et j'invite tous les habitants à aller voir et à donner leur avis. Pour nous, c'est important. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Le maire a souhaité que nous faisions des expérimentations. Ces expérimentations, il faut qu'on sache est-ce qu'elles sont comprises, est-ce qu'elles ne le sont pas, est-ce que les habitants ont des idées. Donc tout ça, ça nous donne un retour, ça nous donne un feedback dont nous nous nourrissons et qui nous permet d'avancer.
Voilà, et pour ceux qui ont des idées, des suggestions d'amélioration à faire, eh bien on peut les exprimer jusqu'au 30 septembre 2024, il y a encore plusieurs mois pour ça, sur ce site, donc jeparticipe.fr. Est-ce qu'une réflexion est menée au niveau métropolitain pour établir un plan pour rafraîchir Toulouse Métropole, si je puis dire ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre du PLUIH, le futur plan local d'urbanisme concerne toutes les communes. Et on a déjà des discussions avec des communes qui ont été demandeuses, notamment Blagnac, notamment L'Union, et on échange entre élus. Même si le plan, initialement, c'est un plan voulu par le maire, puisqu'il n'a pas la compétence de ces compétences-là à l'échelle de la métropole. Donc, c'est un plan...
Mairie de Toulouse.
Mais ce qui est très important, c'est aussi la dynamique, parce qu'on parlait des expérimentations, donc il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui vont fonctionner un petit peu moins. À chaque fois, ce qui est très important, c'est qu'on expérimente, mais aussi qu'on prenne des mesures pour savoir est-ce que les revêtements, c'est tel ou tel albédo, est-ce que ça fait gagner 4 ou 5 degrés, ou est-ce que c'est plus que ça. Donc pour chaque dispositif, j'ai pas parlé des ombrières, j'ai oublié de parler des ombrières, on triple le nombre d'ombrières en 2024. On en avait 7 l'été dernier, là on en aura 20. Et ça c'est important, c'est ce que nous mettons en place quand nous ne pouvons pas planter d'arbres. Donc ce que je disais, c'est qu'il est important que les communes travaillent les unes avec les autres, y compris dans des associations de communes comme France Urbaine, y compris avec des organismes nationaux comme l'ADEME, et on est la première ville à avoir signé la charte avec l'ADEME. Donc on s'inscrit dans une forte dynamique d'échange de bonnes pratiques.
De partage des bonnes pratiques, eh bien, nous allons devoir conclure cette émission. C'est très bien d'en conclure là-dessus. Merci d'en avoir été l'invité Clément Riquet et merci de nous avoir présenté le détail des mesures de Toulouse Plus Fraîche 2024, le plan pour rafraîchir la ville. Cela dit, si l'on pouvait avoir des températures raisonnables cet été, ce serait pas plus mal. Pour retrouver le détail des mesures de Toulouse Plus Fraîche 2024, vous pouvez consulter le site web de la mairie de Toulouse et de la métropole, www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole Vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.